Bonjour à tous. À la une de l'actualité, il ne cesse de grimper. Le chômage encore en hausse au mois de mai dernier. On recense plus de 17 400 demandeurs d'emploi dans les Alpes du Sud. Après 112 km de marche, ils sont arrivés hier à Gap. 15 migrants sont partis la semaine dernière de Briançon. Ils ont rejoint hier soir la préfecture des Hautes-Alpes, accompagnés d'un cortège de 300 personnes. Au cœur de leur demande, obtenir l'instruction de leur demande d'asile en France. La grève se poursuit au sein de la polyclinique des Alpes du Sud à Gap. Le personnel demande aujourd'hui la révocation de la directrice de l'établissement de santé privée. Parce qu'en montagne, il n'y a pas de risque zéro, parce qu'un encadrant peut aussi être poursuivi par la justice, le colloque montagne et justice se déroulait hier au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes. Explication avec le procureur général de Grenoble, Jacques Dallest. Orange investit dans les territoires ruraux pour les connecter au haut débit. Dernière opération en la matière sur les communes d'Ongles, Bannon et Saint-Étienne-des-Orgues. Et donc à la une de l'actualité, le chômage ne cesse sa courbe ascendante depuis un an dans les Alpes du Sud. Pôle emploi a publié ses chiffres pour le mois de mai dernier. C'est une augmentation dans les Alpes d'Haute-Provence de 0,5% sur un mois, 2,5% sur un an. Côté Hautes-Alpes, c'est la hausse de 0,3% sur un mois, 4,3% de plus par rapport à mai 2016. En tout, dans les Alpes du Sud, on recense 17 470 demandeurs d'emploi de catégorie A. Dans le reste de l'actualité, c'est la directive Dublin 3 qui reste encore sur le devant. Après avoir entamé une grève de la faim, ils auront parcouru 112 km de Briançon à Gap. 15 migrants actuellement accueillis dans la ville fortifiée sont arrivés hier soir devant la préfecture des Hautes-Alpes avec eux 300 personnes venues les soutenir pour demander que leur demande d'asile soit instruite en France et non dans un autre pays européen dans lequel ils ont d'abord été enregistrés. Le mouvement Tous Migrants a reçu hier la garantie que le préfet Philippe Cour les rencontrerait ce vendredi à Briançon. Écoutez Stéphanie Besson qui répond au droit par le droit aux représentants de l'État. Elle est au micro d'Alex Cam.
L'article 14 et l'article 17 justement qui disent que le préfet a la possibilité de dédubliner selon les accords de Dublin numéro 3. Il nous invoque le droit, on va lui invoquer également le droit en face. Une des demandes des migrants pour cette marche c'était en fait d'avoir en face à face l'interlocuteur représentant de l'État pour qu'il leur dise en face pourquoi ils n'acceptaient pas de leur donner la chance de dire pourquoi ils avaient le droit à l'asile. Donc le préfet avait répondu qu'il y aurait son représentant qui accueillerait la marche aujourd'hui. Mais les Briançonnais, les Chababs, les migrants, les demandeurs d'asile ne veulent pas voir un intermédiaire. Ils veulent voir le préfet. C'est la moindre des choses quand on a la vie et le destin de personnes entre ses mains. Et donc le préfet a dit qu'il irait à Briançon vendredi à 17h pour parler aux Briançonnais migrants.
Huitième jour de grève au sein de la polyclinique des Alpes du Sud à Gap. Une assemblée générale s'est déroulée hier. 74 personnes se sont prononcées pour la reconduite du mouvement contre aucune abstention ou vote blanc. Au cœur des dénonciations, les méthodes de management de la directrice de l'établissement de santé privée. Une rencontre a eu lieu ce lundi avec la nouvelle députée de la première circonscription des Hautes-Alpes, Pascale Boyer, qui souhaite voir aujourd'hui le dialogue renoué. Par contre, les grévistes ont refusé de s'entretenir avec son époux, qui n'est autre que le président du conseil d'administration Christian Boyer. Les syndicats demandent aujourd'hui la révocation de la directrice de l'établissement. Je vous le disais dans les titres, parce qu'il n'existe pas de risque zéro en montagne, parce qu'un encadrant peut aussi être confronté à la justice en cas d'accident. Un colloque montagne et justice se déroulait hier au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes à Gap. Il était adressé aux pratiquants amateurs ou professionnels autour de guides de haute montagne et du procureur général de Grenoble, Jacques Dallest. Après une reconstitution d'une audition judiciaire inspirée d'un cas réel d'accident survenu en montagne, les intervenants et le public ont pu débattre. Objectif, montrer comment fonctionne la justice pénal en cas d'accident grave et en quoi une faute peut amener devant un tribunal. Écoutez Jacques Dallest, le procureur général auprès de la cour d'appel de Grenoble.
La loi borde le champ de la responsabilité pénale en disant pour être punissable, il faut soit avoir commis une faute délibérée, c'est-à-dire avoir violé un règlement, soit une faute caractérisée, une grosse négligence. Une simple faute, et ça peut arriver, n'est pas forcément constitutive d'une faute pénale. Une erreur technique, ça fait partie de la montagne. Par contre, une grosse négligence, ne pas s'être équipé comme il se doit, avoir emmené des gens inexpérimentés dans une sortie aventureuse, ça peut être une faute caractérisée. C'est une loi de 2000, qui a maintenant donc 17 ans, qui est venue pour éviter que tous les décideurs, et en l'espèce ce seraient les encadrants en montagne, soient conduits devant un tribunal.
Notez que vous retrouverez une émission spéciale autour de la montagne et de la justice ce soir dès 18h dans Au bout de l'actu. Alors que RTE est en train de mener des travaux de rénovation électrique en Haute-Durance, le reste du territoire alpin se sent délaissé. Les maires assistent aujourd'hui impuissants à la dégradation du réseau. L'alarme est déclenchée par le CIM05, l'autorité organisatrice de la direction d'électricité dans les Hautes-Alpes et l'association des maires du département. Le constat est le suivant, Enedis ne respecte pas son cahier des charges dans les investissements à mener sur les 3000 km de lignes basse tension et 2800 km de haute tension. Il faudrait en rénover 45 km chaque année selon le CIM. Son troisième vice-président et président de la MF05 est Jean-Michel Arnaud.
Nous avons constaté à l'occasion du dernier bureau que Enedis, qui est notre concessionnaire pour 30 ans, a 24 millions d'euros de réserves en termes de provisions et n'utilise pas ces réserves pour moderniser, maintenir à niveau notre réseau. En 2012, il investissait près de 11 millions d'euros par an. Cette année, nous constatons 7 millions d'euros d'investissement. À ce rythme-là, notre réseau va se dégrader. C'est des risques de coupure lorsqu'il y a des phénomènes neigeux l'hiver ou lorsque l'on a des grandes chaleurs l'été. Et c'est une dégradation du service pour les usagers. Nous demandons à ce que Enedis ne fasse pas remonter les bénéfices sur la holding EDF au niveau national, mais l'investisse comme c'est prévu dans le cadre du cahier des charges dans le département pour maintenir un réseau performant.
Si Enedis ne répond pas favorablement aux attentes, des procédures en contentieux pourraient alors être lancées. D'un autre côté oublié, de l'autre connecté. L'opérateur privé Orange vient d'investir pour rendre le haut débit accessible à Bannon, Ongles et Saint-Étienne-les-Orgues dans les Alpes-d'Haute-Provence. 1200 foyers de ces trois communes ainsi que les entreprises pourront désormais avoir le très haut débit et l'accès à la télé par Internet. Écoutez Nathalie Claire, directrice Orange Sud-Est.
Cette solution, nous avons loué au syndicat mixte ouvert PACA très haut débit, qui est délégataire du réseau d'initiative publique, et nous avons amené cette fibre jusqu'au centre-bourg. À partir du centre-bourg, nous avons installé des nœuds de raccordement à volet. Nous permettons à 33 000 foyers et entreprises d'être éligibles en fait à cette technologie proche de la fibre qui s'appelle le VDSI2, permet des débits de 50 mégas.
Et dans les Alpes-de-Provence, 15 communes bénéficieront du programme Orange Territoire Connecté. Retrouvez la liste sur alpe1.com. Et alors que les opérateurs ont désormais l'obligation de couvrir en 4G les zones de déploiement prioritaires, Orange veut anticiper de 3 ans la date butoir.
Alpe 1 Sport.
Et on va parler avec Romaric Ponce d'un trail un peu particulier, l'aventure Ubayen, qui tiendra sa première édition dimanche avec un concept plutôt original.
C'est un trail d'orientation allant de 5 à 25 km qui est proposé par l'organisation autour de Saint-Paul-sur-Ubaye. En pleine saison de trail, le concept se différencie des autres courses en montagne proposées en période estivale. Pas de balisage, mais des cartes IGN et des photos aériennes remises aux participants qui devront rallier différents points le plus vite possible. Le Team Life Experience à l'origine de l'événement précise que ce trail haut s'adresse aussi bien aux familles qu'aux randonneurs ou aux experts de l'orientation, à la recherche d'un défi physique et technique. Au cœur de la vallée de l'Ubaye, l'expérience s'annonce en tout cas ludique. Guillaume Mathurin, organisateur de cette aventure ubayenne.
Le principe de ce trail orientation, c'est avant tout donc une course d'orientation. Il faut trouver des balises qui sont réparties dans un territoire. Donc les gens partent avec une carte, une boussole, et ils cheminent dans un environnement, sur les chemins ou en dehors des chemins. Nous avons positionné des balises, évidemment, à des endroits clés, comme des points particuliers, des lieux chargés un peu d'histoire, des endroits où il y a des vues, notamment sur le break de Chambéron. Les personnes cheminent en totale autonomie et essayent de trouver la meilleure voie, la voie la plus courte pour aller d'un point A à un point B.
Départ en masse de ce trail d'orientation prévu donc dimanche à 9h pour les 15 et 25 km. Ensuite, chacun se débrouillera avec ses indices et son sens de l'orientation plus ou moins aiguisé. Alors pour celles et ceux qui disposeraient d'un compas qui n'indique pas le nord, pas de panique, vous ne serez pas perdus pour autant.
Pas de risque de se perdre, c'est la belle vallée du Bail, il n'y a aucun souci, on aura toujours en visu le village de Saint-Paul-sur-Ubaye qui nous sert de lieu de départ.
Guillaume Mathurin, organisateur de cette aventure ubayenne avec le soutien des artisans de la vallée et de Saint-Paul-sur-Ubaye. Sachez que les inscriptions sont ouvertes sur le site de l'épreuve www.aventure-ubayenne.fr.
Merci Romaric.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.